VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du mardi 19 janvier 2021. Eric Manirakidza à la présentation. Voici d'abord les titres. Washington est sous haute surveillance à quelques heures de l'investiture de Joe Biden. Calme au Darfour après des heurts qui ont fait plus de 150 morts et de nombreux blessés. Le Rwanda impose à nouveau un confinement total à Kigali, la capitale. Le Kremlin balaye les appels occidentaux à libérer l'opposant russe Alexei Navalny. Également dans cette édition du Monde Aujourd'hui, l'économie et les sports, mais tout d'abord le journal. Le centre-ville de Washington est comme un état de siège à quelques heures de la cérémonie d'investiture du président élu américain Joe Biden. Il a de nouveau appelé à l'unification d'un pays très divisé, Bagassi-Coura.
Jusqu'à 25 000 soldats de la garde nationale, l'armée de réserve, ont été déployés dans la capitale pour protéger une zone rouge allant du Capitole où Joe Biden et Kamala Harris vont prêter serment à la Maison-Blanche. L'immense esplanade du National Mall, où des milliers d'Américains se pressent tous les 4 ans pour assister à la cérémonie, est fermée. Les rues sont vides, certaines sont bloquées par des blocs de béton pour empêcher la circulation. Des militaires en armes et des policiers devant des véhicules blindés ont remplacé des visiteurs. Cette cérémonie d'investiture sera exceptionnelle, avec un parterre limité d'invités et pas de public. En raison de la pandémie de coronavirus, plus de 190 000 drapeaux ont été plantés sur le mall pour représenter ce public absent. La ville reste traumatisée par l'assaut meurtrier sur le Capitole le 6 janvier et Donald Trump aura déjà quitté la Maison-Blanche pour sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Il deviendra le premier président à refuser d'assister à la prestation de serment de son successeur depuis Andrew Johnson. En 1869.
Joe Biden a invité les chefs du Congrès républicains et démocrates à assister avec lui à un office religieux mercredi matin à Washington avant la cérémonie d'investiture. Le chef des sénateurs républicains Mitch McConnell a accepté d'assister à l'office de la cathédrale de Saint-Matthieu. La chef démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, le chef des sénateurs démocrates Chuck Schumer et le leader du groupe républicain à la Chambre basse, Kevin McCarthy, ont également été conviés. La première dame, Melania Trump, a publié un message d'adieu hier alors qu'elle se prépare à quitter la Maison-Blanche, déclarant que la violence n'est jamais la solution, quelques jours après l'assaut de partisans du président Trump au Capitole. L'Amérique revient en première ligne, mais comptera désormais sur ses alliés pour remporter la compétition avec la Chine et contrer ses autres adversaires. Ensemble, nous sommes en bien meilleure posture pour contrer les menaces posées par la Russie, l'Iran et la Corée du Nord, et pour défendre la démocratie et les droits humains, devait déclarer à l'ouverture des auditions pour sa confirmation devant le Sénat, Anthony Blinken, nommé secrétaire d'État. Les sénateurs l'interrogent dans l'après-midi et doivent se prononcer dans les prochains jours par un vote. L'élection du démocrate Joe Biden aux fonctions de président des États-Unis est une bonne nouvelle pour la lutte contre le changement climatique, a estimé aujourd'hui Alok Sharma, le président de la grande conférence de l'ONU sur le climat COP26 prévue au Royaume-Uni en novembre. Joe Biden a promis de ramener les États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Donald Trump avait annoncé le retrait des États-Unis 2 ans après la signature de l'accord de Paris en 2015. Joe Biden a annoncé aujourd'hui qu'il nommait ministre adjointe de la Santé Rachel Levin, une experte transgenre en pédiatrie et psychiatrie, actuellement directrice de la santé dans l'État de Pennsylvanie, une première historique. Le président sortant, Donald Trump, a accordé aujourd'hui, à la veille de la fin de son mandat, la prestigieuse Légion du Mérite au roi de Bahreïn, pays du Golfe abritant la 5e flotte américaine et qui a normalisé ses relations avec Israël. La semaine dernière, Donald Trump avait accordé la même distinction au roi du Maroc, Mohamed VI, qui lui a aussi signé un accord de normalisation avec Israël. La Légion du Mérite est une médaille militaire remise pour un fait d'armes exceptionnel ou à des responsables étrangers qui peut uniquement être accordé par le président, selon la Maison-Blanche. Le gouvernement ougandais a accusé aujourd'hui l'ambassadrice des États-Unis de non-respect des règles diplomatiques et de malveillance après sa tentative de rendre visite l'opposant Bobi Wine, bloqué chez lui. Hier, l'ambassadrice américaine Natalie Brown a tenté de rencontrer l'opposant Robert Kyagulanyi, de son vrai nom, et a été stoppée par des policiers en tenue anti-émeute. L'ancien chanteur est de fait assigné à résidence. Bobi Wine dénonce une mascarade électorale complète. Yoweri Museveni a été proclamé vainqueur dès le premier tour. La coalition des 15 partis d'opposition de Centrafrique a rejeté la réélection du président Faustin Archange Touadéra, proclamé par la Cour constitutionnelle. Elle ne reconnaît pas la réélection de M. Touadéra déclaré vainqueur avec seulement 17% du corps électoral et dénonce d'innombrables fraudes et irrégularités. Des groupes armés centrafricains qui contrôlent 2/3 du territoire ont lancé une nouvelle offensive une semaine avant le scrutin. Retour au calme au Darfour dans l'ouest du Soudan après des heurts interethniques qui ont fait quelques 155 morts et déplacé des dizaines de milliers de personnes. Mais les craintes de nouvelles violences persistent. Abdelrahman Dia.
Le gouvernement de transition à Khartoum a envoyé des troupes dans la région. Les autorités locales au Darfour Ouest ont imposé un couvre-feu. Ces affrontements avaient débuté samedi à El Geneina, la capitale du Darfour Ouest, entre la tribu al-Massalite et des nomades arabes. Au moins 100 personnes ont été tuées et 132 blessées, selon le gouverneur. Les incidents ont également touché un camp pour personnes déplacées après le conflit entamé en 2003 au Darfour. Quelques 50 000 personnes ont été déplacées à la suite des nouvelles violences, selon l'ONG Save the Children. Lundi, des affrontements similaires ont eu lieu entre 2 tribus, cette fois au Darfour Sud, faisant 55 morts et 37 blessés. Les nouvelles violences interviennent peu après la fin de la MINUAD, la mission conjointe ONU-Union africaine, le 31 décembre, après 13 années dans cette vaste région de l'ouest du Soudan, minée par l'instabilité. Des centaines de personnes déplacées avaient manifesté contre le départ de cette mission, craignant un regain de tension.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se félicite de progrès tangibles accomplis ces derniers mois en Libye, dans un rapport remis hier au Conseil de sécurité qui rappelle la nécessité d'un départ des troupes étrangères et mercenaires d'ici samedi. Le point sur la pandémie de COVID-19, l'université Johns Hopkins fait état de plus de 2 millions de morts dans le monde et plus de 85 millions d'infections depuis décembre 2019. Le point avec Mohamedou Oumfa.
Les États-Unis sont toujours le pays le plus touché avec près de 400 000 morts, suivis par le Brésil, l'Inde, le Mexique et le Royaume-Uni. L'épidémie a réduit de plusieurs mois l'espérance de vie en France, a indiqué ce mardi l'Institut français de la statistique. L'espérance de vie à la naissance atteint 85,2 ans pour les femmes, en baisse de quasiment 5 mois, et 79,2 ans pour les hommes, en baisse de 6 mois. Au Rwanda, la capitale Kigali est à nouveau confinée en raison d'une augmentation des infections au coronavirus dans ce pays qui a été l'un des plus stricts du continent face à l'épidémie. Le gouvernement du président Paul Kagame a annoncé lundi soir interdit tous les mouvements inutiles dans et en dehors de la capitale pour une durée de 15 jours. Au Ghana, des millions d'enfants ont repris le chemin de l'école lundi après 10 mois de fermeture. Le Ghana avait imposé un confinement très strict le 16 mars, 2 semaines après l'annonce du premier cas confirmé de COVID-19 en Afrique subsaharienne.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Kremlin a rejeté aujourd'hui les demandes occidentales de libérer l'opposant Alexei Navalny, incarcéré depuis son retour en Russie, et a mis en garde ses partisans qui comptent manifester ce week-end en Russie. Les précisions de John Linden.
Le militant âgé de 44 ans a été arrêté dimanche dès son retour d'Allemagne, où il était en convalescence après un empoisonnement présumé en août. Les principales puissances occidentales ont réclamé sa libération immédiate, demandant à Moscou de s'expliquer sur les accusations d'empoisonnement et d'enquêter sur cette tentative d'assassinat présumée. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a dit mardi que Moscou ne prévoit pas de prendre en considération les appels occidentaux de remettre l'opposant en liberté. C'est une affaire totalement intérieure et nous ne permettrons à personne de s'ingérer là-dedans, a-t-il ajouté. Alexei Navalny a été incarcéré au moins jusqu'au 15 février dans le cadre d'une procédure pour violation d'un contrôle judiciaire et placé en détention à Moscou en quatorzaine du fait de la pandémie de coronavirus. Dès l'annonce de cet emprisonnement, l'opposant et ses partisans ont appelé à manifester samedi 23 janvier. Le porte-parole du Kremlin a jugé que de tels appels et rassemblements pouvaient s'apparenter à des activités illégales.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par John Lyndon.
Au Nigeria, le taux d'inflation a atteint 15,75% en décembre, son plus haut niveau depuis 33 mois selon les chiffres du Bureau national des statistiques. La première économie d'Afrique qui avait fermé ses frontières de août 2019 à décembre 2020 pour stimuler son processus d'autosuffisance alimentaire s'éloigne encore un peu plus des critères de convergence pour l'adoption de l'éco, la monnaie unique de la CEDEAO. Cette influence, souligne Financial Afrique, résulte en partie de l'instabilité de la monnaie nationale, le Naira. La balance des paiements du Togo a connu un accroissement fulgurant de 153,143 milliards de francs CFA au terme de l'année 2019 comparé à 2018 selon les données établies par le comité de la balance des paiements validé par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest.
À présent, la page des sports avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Le sixième championnat d'Afrique des Nations se poursuit au Cameroun. Deux matchs au programme aujourd'hui dans le groupe D. Le premier met présentement aux prises la Zambie et la Tanzanie et dans la rencontre suivante, la Guinée et la Namibie s'affrontent à 19h temps universel. Hier à Douala au stade de la réunification, le champion en titre, le Maroc, a battu le Togo 1-0. Dans le second match, les Amavubi rwandais et les Crânes ougandais ont fait match nul 0-0. Les Marocains prennent donc la tête du groupe D avec 3 points suivis par les Rwandais et les Ougandais. 1 point chacun et le Togo ferme la marche avec 0 point. Handball, le mondial masculin bat son plein en Égypte à suivre entre autres rencontres ce soir. Les Léopards de la RDC face à Bahreïn. La Tunisie affronte l'Espagne. Hier, les Pharaons signent leur première défaite après 2 victoires. L'Égypte est tombée d'un seul point devant la Suède, vainqueur 24-23. Le Maroc a essuyé un 3e revers face à l'Islande, cette fois-ci 23-31. 2e défaite pour l'Algérie, battue par le Portugal, 26-19. Ici, en basketball, Brooklyn, porté par son duo redoutable Harden-Durant, a vaincu Milwaukee et Giannis Antetokounmpo dans le choc de la NBA lors du Martin Luther King Day. Les Nets ont eu le dernier mot face aux Bucks 125-123 grâce à un panier derrière l'arc de Kevin Durant, 30 points, 9 rebonds, servi par James Harden, 34 points et 12 passes décisives. En face, Antetokounmpo a sorti un match de MVP qu'il est, 34 points, 12 rebonds et 7 passes décisives, mais insuffisant. Golden State a fait chuter les Lakers 115-113. Toronto, du Camerounais Pascal Siakam, va mieux après son 3e succès consécutif contre Dallas 116-93. À Memphis, les Grizzlies ont remporté un 5e match d'affilée contre Phoenix 108-104. À Miami, le Heat s'est ressaisi après 3 défaites d'affilée en battant Détroit 113-107. Pendant ce temps à Portland, les Blazers ont chuté contre San Antonio 125-104. Les New York Knicks ont battu Orlando 91-84 et les Chicago Bulls se sont imposés 125-120 face à Houston. Les Hawks d'Atlanta sont venus à bout de Minnesota 108-97. Toujours ici aux États-Unis, la NBA a annoncé le report du match prévu demain entre Charlotte et Washington. Les Wizards n'ayant pas suffisamment de joueurs disponibles alors qu'un minimum de 8 par équipe est requis pour jouer, Washington doit faire 106 joueurs positifs au COVID-19 et d'autres également tenus d'observer une quarantaine du fait qu'ils sont leur cas contact potentiel. C'est le 5e match consécutif manqué par les Wizards en 8 jours et le 15e reporté depuis qu'a débuté il y a presque un mois la saison régulière de la NBA. Malgré tout, l'entraîneur de Washington, Scott Brooks, a réaffirmé sa confiance en la NBA qui ne veut pas interrompre momentanément sa saison.
C'était les sports de Yakuba Ouedraogo. Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. De retour avec vous, Eric Manilakidza, pour aborder les dossiers du jour. Demain, mercredi 20 janvier, Joe Biden va prêter serment à Washington DC comme le nouveau président des États-Unis après la violente attaque des partisans du président sortant Donald Trump contre le Capitole au début du mois. Les Américains se préparent au pire, mais espèrent retrouver l'unité, thème de l'investiture de Biden. Reportage de Mike O'Sullivan, récit de John Linden.
La sécurité est renforcée pour la cérémonie la plus importante du pays qui a lieu tous les 4 ans, l'investiture d'un président. Washington n'a jamais vu une telle présence militaire depuis la guerre civile. Jusqu'à 25 000 soldats de la garde nationale ont été déployés avec des policiers en renfort. Dans ce contexte, le thème de l'investiture de Biden, l'Amérique unie, paraît ambitieux. Terence Kenner, ancien chef de la police du Capitole, reste confiant.
The planning for that has been going on for over a year, as it was when I ran some of those operations.
La planification se poursuit depuis plus d'un an, comme c'était le cas lorsque je dirigeais certaines de ces opérations. Et il y aura environ 5 000 agents des forces de l'ordre des États-Unis et des comtés à faire venir pour compléter les services secrets, le FBI et la police du Capitole. Je suis convaincu que l'investiture du prochain président des États-Unis se déroulera sans heurts.
Sécurisé et socialement éloigné, une grande partie de la cérémonie sera virtuelle, animée par l'acteur Tom Hanks, avec des artistes comme Lady Gaga et Jennifer Lopez. Une grande partie de la capitale sera fermée. Des drapeaux américains ont été plantés sur l'espace du mall pour représenter les centaines de milliers de personnes qui avaient l'habitude de prendre part en personne à la cérémonie. Compte tenu des manifestations dans certains États, une sécurité supplémentaire est attendue dans les 50 États de la Fédération. Un récent sondage indique que les 3/4 des Américains craignent des violences. Caroline Persforce-Wood estime que les tensions sont aggravées par des policiers qui ne répondent souvent pas aux besoins de la nation.
Je pense que les gens sont souvent déconnectés des communautés qu'ils prétendent représenter. Alors je pense que le système est cassé.
Deux amis, hôtesses de l'air, en désaccord politique, sont d'accord sur une chose. Les Américains doivent se rassembler. Écoutons d'abord Laura, puis Linda.
La droite se radicalise vers la droite et la gauche se radicalise vers la gauche.
Et c'est là que je suis d'accord avec elle. Je pense que la droite est trop à droite et la gauche est trop à gauche.
Parmi les défis qui attendent Biden, une Corée du Nord belligérante, mais aussi le face-à-face avec la Chine et la Russie. Les défis intérieurs comprennent la flambée des infections au COVID-19, le chômage élevé et les divisions politiques. Anwar Hawk, professeur d'université.
L'important, c'est que nous voulons aller de l'avant.
Et beaucoup espèrent unifier un pays très divisé.
Avec vous, cette semaine dans Washington Forum, l'investiture de Joe Biden comme 46e président des États-Unis. L'ancien vice-président de Barack Obama se donne comme mission d'unir un pays divisé suite à l'assaut contre le Capitole qui a obligé les autorités à fortifier Washington. Il a aussi annoncé un ambitieux plan de relance économique et un vaste programme de vaccination contre le COVID-19. Joe Biden annonce aussi une nouvelle dynamique dans les relations entre les États-Unis et le reste du monde. Avec nos invités, nous allons décortiquer le programme de Biden et le caractère historique de la vice-présidence de Kamala Harris. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'ancien vice-président de Barack Obama, Joe Biden, va donc être investi demain 46e président des États-Unis. Tous les 4 ans, les Américains sont les témoins de ce transfert pacifique du pouvoir, un symbole puissant de la démocratie américaine. Dora Mekouar de la VOA nous plonge dans l'histoire des investitures de présidents américains avec le récit de Lionel Lunanira Gahima.
I have yes Truman do solemnly swear
that I will faithfully execute
the office of President of the United States
and will to the best of my ability
preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Le jour de l'investiture est une affirmation de l'idéal américain d'autonomie gouvernementale. Un nouveau dirigeant prête serment, apte à gouverner avec le consentement des gouvernés.
Faisons de ce jour d'espérance le chapitre le plus noble de notre histoire.
Les nouveaux présidents entament leur mandat par un discours qui donne le ton aux quatre années à venir.
La seule chose que nous devons craindre est la peur elle-même.
Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays.
Colin Shogan est de l'Association historique de la Maison-Blanche.
C'est une réelle opportunité de renouveau américain. C'est la première fois que le président se présente comme le président de la nation et il n'aura plus jamais cette opportunité de le faire. C'est donc un moment très important de l'histoire américaine.
Le gouvernement n'est pas la solution à notre problème. Le gouvernement est le problème.
Qu'il s'agisse de l'appel de Ronald Reagan à limiter le pouvoir fédéral ou la prestation de serment du premier président africain-américain, il y a des moments où les investitures transcendent le temps. L'historien Matt Dalek de l'Université George Washington.
Ces moments font partie de la mémoire nationale parce qu'ils témoignent de quelque chose de fondamental pour le pays et la période durant laquelle ils se produisent.
Des moments pour des gestes symboliques aussi. En 1809, James Madison a voulu que toute sa tenue d'investiture soit fabriquée en Amérique. Le défilé inaugural de Dwight D. Eisenhower en 1953 a présenté la puissance militaire américaine. Colin Shogan à nouveau.
En 1865, lors de la deuxième investiture d'Abraham Lincoln, il a invité les Africains-Américains à participer pour la première fois à la cérémonie. En 1917, deuxième investiture de Woodrow Wilson, les femmes ont participé au défilé pour la première fois.
L'investiture de William Henry Harrison en 1841 a été la plus tragique. À 68 ans, l'homme le plus âgé, jamais élu président à l'époque, a prononcé le plus long discours de l'histoire inaugurale, plus d'une heure, malgré des températures glaciales. Harrison tombe malade ce soir-là et rend l'âme un mois plus tard, c'est le mandat le plus court d'un président américain. La télévision a transformé des investitures en événements grandioses. L'historien Magdalene.
Au fur et à mesure que les devoirs et responsabilités du président augmentent, je pense que nous avons vu les investitures prendre une dimension plus grande que d'habitude avec les fêtes et les défilés.
Une célébration de la solidarité de la démocratie américaine.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Direction Bangui, en République centrafricaine. Après sa réélection, le président Faustin Archange Touadéra appelle à l'unité de tous les Centrafricains. Pour le chef de l'État, l'heure n'est plus aux tergiversations, mais à une action commune, afin de poursuivre ensemble le combat de la défense de la souveraineté. De Bangui, les précisions de Freeman Sipila pour VOA Afrique.
Je suis le président de tous les Centrafricains, a martelé Faustin Archange Touadéra, qui se présente comme le rassembleur. Le président réélu appelle à l'unité pour combattre le mal.
Aujourd'hui, je vous réaffirme que je suis le président qui rassemble toutes les filles et tous les fils de la République centrafricaine. Je suis le président de tous les Centrafricains, sans distinction d'origine politique, régionale, ethnique, religieuse, philosophique et sociale. Fidèle à ma politique de main tendue, d'addition et de multiplication. Je tends la main à tous les compatriotes épris de paix.
Le pays étant en guerre, le président centrafricain sollicite le soutien de ses concitoyens en faveur des forces nationales, de leurs alliés et de la MINUSCA.
Je voudrais ici féliciter du fond du cœur nos forces de défense et de sécurité. Je voudrais remercier et encourager la MINUSCA, les forces spéciales amies russes et rwandaises, pour leur appui aux forces de défense et de sécurité de notre pays qui ont permis de contrer l'offensive rebelle et de protéger les institutions de la République. Je vous exhorte instamment à continuer à soutenir par tous les moyens nos forces de défense et de sécurité ainsi que la MINUSCA et les forces spéciales russes et rwandaises jusqu'à la victoire finale sur les forces du mal.
Dans la capitale Bangui, les réactions n'ont pas tardé. Martin Ziguele, sorti troisième avec 7,54%, dit prendre acte de la décision de la Cour constitutionnelle.
La Constitution de notre pays dit que lorsque vous allez à des élections, le juge final, c'est la Cour constitutionnelle. Nous avons fait ce recours et la Cour constitutionnelle a donné son verdict hier. En tant que démocrate et en tant que républicain, nous respectons notre engagement et nous prenons acte des résultats qui ont été publiés hier. Donc il faut qu'on soit lucide sur la situation de notre pays qui est à genoux et faire une offre politique qui ne consiste pas à faire de la rue, à faire de la roublardise, mais à trouver les bonnes solutions pour répondre aux attentes de la population pour que la paix revienne dans notre pays.
Pour la société civile, le peuple a tant souffert, l'heure est à l'apaisement. Chantal Solange-Touabina, coordonnatrice de la plateforme de la société civile en République centrafricaine.
Je lance un vibrant appel à l'endroit de la population, à l'endroit de tous les fils du pays, d'accompagner ce président pour le relèvement de la RCR. En tant que société civile, je demande au président de la République de travailler, d'ouvrir ses bras et d'accueillir tous ses frères sans exception, de travailler avec ses frères. Il est le président de tous les Centrafricains. Il n'est pas le président d'un parti politique. Il est le président de tous les Centrafricains.
Réélu avec 53,16% des voix, Faustin Archange Touadéra prêtera serment pour un nouveau quinquennat le 30 mars 2021. Fumansi Pila Bongui pour VOA Afrique.
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui. À la mise en onde, Lionel Lunamina Gahima, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnon et Josède Morissin. À la présentation, c'était Eric Manilakiza. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur votre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Excellente soirée à tous. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.
San Vicente.